Dans le chapitre 5 de Jean, Jésus est en train de démontrer aux religieux qui l'ont pris à partie qu'il est vraiment le Messie et qu'ils devraient croire en lui afin de recevoir la vie éternelle. Je continue. Sa parole n'habite pas en vous. La preuve, c'est que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. Mais voilà, vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie. Versets 38 à 40. Ceux qui s'opposent à Jésus étudient pourtant les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avec une grande application. Ils croyaient que celui qui avait une compréhension intellectuelle des mots et des phrases participerait au monde à venir. C'était pour eux un exercice purement cérébral. De plus, dans leur arrogance, ils considéraient ceux qui n'avaient pas d'éducation et ignorants de la loi comme des maudits. Or, la lecture, la méditation des textes sacrés n'est pas une fin en soi, mais le moyen de découvrir Dieu et ce qu'il exige de l'homme. Les érudits juifs s'étaient endurcis par leur propre justice. Ils avaient un voile sur leurs esprits et leurs cœurs. C'est pour cela qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus était le prophète, le roi descendant de David, le Messie qui avait été promis et l'accomplissement de toute la loi et de son système sacrificiel. En s'offrant lui-même sur la croix, le Christ devint à la fois le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et le grand prêtre, le souverain sacrificateur qui offre le sacrifice. Mais en dépit des preuves irréfutables qui pointent vers Jésus comme le Fils de Dieu, les chefs religieux ont délibérément choisi de le rejeter. Or, on ne peut obtenir la vie éternelle qu'en venant humblement à Jésus. Il n'existe pas d'autre voie. Je continue. Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes. Seulement, je constate une chose. Au fond de vous-même, vous n'avez pas d'amour pour Dieu. Versets 41 à 42. Les Juifs ont peut-être pensé que Jésus était vexé parce qu'il n'avait pas été officiellement approuvé par les chefs religieux. Il croit connaître ses motifs, mais en vain. Par contre, lui a mis le doigt sur leurs problèmes de fond. Ils n'ont aucune affinité pour Dieu que de toute façon, ils n'aiment pas. Pourtant, le plus grand commandement que Moïse a donné au peuple est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Fin de citation. Je continue. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Verset 43. Les faux messies et faux prophètes n'ont jamais manqué, ni avant, ni après Jésus, et ils ont toujours été mieux reçus que les envoyés de Dieu. Les faux valorisent l'homme, lui chatouillent les oreilles en lui disant ce qu'il veut entendre. Les vrais prophètes qui parlent au nom de Dieu ont un message qui est essentiellement un appel à la repentance et donc fort désagréable pour l'orgueil humain. C'est pour cela que les religieux rejettent le Christ, le représentant et l'ambassadeur du Père. Un jour, l'Antéchrist viendra en son propre nom et il sera accepté. Je continue. D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Verset 44. En recherchant l'approbation des hommes et désirant être placés sur un piédestal par eux, les chefs religieux usurpent la gloire qui revient à Dieu seul. Ils ont transformé la loi en une religion qui est à leur propre service et qui leur donne le pouvoir sur le peuple. Il en est d'ailleurs toujours ainsi aujourd'hui. Les systèmes religieux ont la fâcheuse tendance à être l'opium du peuple, pour reprendre une vieille expression. Il y a bien sûr le phénomène des sectes, plus de 2000 dans le monde, mais les grandes religions ont-elles aussi leurs gourous qui contrôlent le bas-peuple, crédule en ce qui concerne leur chef despote et incrédule pour ce qui est de la vérité de l'Évangile en Jésus-Christ. Je continue jusqu'à la fin de ce chapitre. N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. Si vous ne croyez même pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Versets 45 et 47. Jésus est venu en tant que sauveur, et non pas comme juge. Il ne désirait pas accuser quiconque. C'est Moïse, dont les Juifs se réclament, qui les condamnera parce qu'ils ont rompu l'alliance qu'il a instituée avec Israël et rejeté le prophète par excellence au sujet duquel il a écrit. Les chefs religieux pensaient qu'en suivant des règles complexes et contraignantes qu'ils avaient ajoutées à la loi, cela leur garantirait le salut. Ils suivaient un système de tradition purement humain qu'ils avaient eux-mêmes établi. Ils en tiraient leur statut social, leur richesse et leur fierté devant le peuple et s'imaginaient que l'Éternel allait les féliciter pour leur pratique et leur accorder la vie éternelle. Quelle insolence ! Où est-ce de la pure démence ? Si les Juifs avaient vraiment cru Moïse, ils auraient accepté le Christ, car toute la loi préparait et annonçait sa venue. Le Messie devait venir pour accomplir par sa vie et par sa mort toute la loi aussi bien morale que cérémonielle. En s'offrant lui-même sur la croix, Jésus fut le dernier des sacrifices interminables que les Israélites devaient obligatoirement offrir jour après jour et mois après mois. En rédigeant le commentaire sur le livre des Nombres, j'ai décidé d'ajouter bout à bout tous les animaux qui étaient immolés sur l'année par Israël en tant que nation juste pour l'exercice normal du culte. Ça fait 115 taureaux, 38 béliers, 1196 agneaux et 31 boucs, si j'ai bien compté. Une véritable hécatombe, surtout dans les rangs des agneaux. Cela n'inclut pas les sacrifices individuels qui devaient inévitablement être offerts par des individus ayant commis certaines transgressions. Cela n'inclut pas non plus les offrandes faites volontairement, par reconnaissance envers Dieu, par exemple. En plus, il fallait aussi offrir un sacrifice lors d'une naissance, après avoir touché un mort, etc., etc. Je n'exagère donc pas quand je dis que le culte hébraïque repose sur des sacrifices interminables. La pensée, le fil conducteur des cinq livres de la loi, aboutit à la personne du Christ. Mais Moïse, ce grand législateur, ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament d'ailleurs, furent rejetés d'abord par les dirigeants d'Israël et ensuite par tout le peuple. Les chefs religieux sondaient l'Ancien Testament, mais se refusaient à le comprendre et surtout à lui obéir. Ils avaient conçu leur propre religion et c'est pour cela qu'ils ne reconnurent pas le Messie. Tout le monde, ou presque, préfère les évangiles et le Nouveau Testament. Cependant, l'Ancien est le fondement du Nouveau. Les deux vont de pair. Négliger l'Ancien, c'est méconnaître aussi bien Dieu que Jésus-Christ. Dans un asile psychiatrique, un des patients avait décidé de creuser autour des fondations. Un des gardes, voulant essayer de raisonner avec lui, dit alors « Ce que vous faites met en danger ce bâtiment dans lequel vous habitez. » Sur quoi l'autre lui répondit « Ce que je fais ne m'affectera pas car j'habite tout en haut. » Ainsi en est-il de la fondation du Nouveau Testament. C'est une bonne compréhension de l'ancien qui permet d'apprécier pleinement la signification de l'œuvre accomplie par le Christ et en particulier la valeur infinie de son sacrifice sur la croix. Selon passage conflictuel dans ce chapitre, entre les chefs religieux et Jésus que je viens de terminer, semble indiquer que son procès a déjà commencé. L'enseignement que donne le Christ a plusieurs composantes. Il communique tout d'abord qu'il est venu révéler le véritable sens, l'intention de la loi et donc du sabbat. Dans ce procès en cours, de nouveaux témoins sont appelés à la barre. Jean-Baptiste, les Écritures, les miracles, Moïse et surtout Dieu que Jésus appelle son Père. Finalement, ce sont les chefs des Juifs et non Jésus qui sont sur la sellette et accusés d'incrédulité. Jésus souligne avec insistance la communion intime qui le lie à son Père et l'harmonie qu'il existe entre eux. Les paroles et les œuvres du Fils sont celles du Père. La vie qui est dans le Fils est aussi dans le Père. Celui qui rejette le Fils rejette le Père. Comme Dieu travaille en permanence, Jésus a reçu de lui tout pouvoir pour agir selon son exemple, même pendant le repos du sabbat. Nous voici arrivés au chapitre 6 de Jean, un passage très important et, on pourrait dire, la clé de tout l'Évangile. L'auteur va maintenant raconter l'histoire de la multiplication des pains pour une foule qui comptait 5000 hommes. C'est le seul miracle qui est rapporté par les quatre évangiles, ce qui en souligne l'importance capitale. Sa signification est exposée par le Seigneur dans le long discours qui suivra ce repas sur l'herbe. Ce miracle lui-même était si spectaculaire qu'il accrut l'attente messianique de la foule de façon considérable jusqu'à générer un enthousiasme presque délirant. Mais peu après, devant le refus de Jésus de prendre la tête d'un soulèvement contre les Romains, un grand nombre de pseudo-disciples cessèrent de le suivre. Jean, l'auteur, ne choisit que quelques-uns des miracles de Jésus qu'il appelle des signes. Il reconnaît lui-même à la fin de son ouvrage que Jésus en a fait d'innombrables. Je le cite. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Fin de citation. Je commence à lire ce chapitre 6. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. Verset 1 à 2. Au moins 6 mois et peut-être 1 an se sont écoulés depuis les événements précédents, dont le conflit avec les chefs religieux. Jean-Baptiste a été mis à mort par le roi Hérode, tandis que Jésus et ses disciples, après avoir quitté Jérusalem, avaient prêché dans toute la Galilée. Maintenant, ils se trouvent au nord-est du lac de Tibériade, certainement pour prendre un peu de repos. Mais là aussi, dans cet endroit pourtant désert, une foule vient à lui parce qu'il était pour ces gens un thaumaturge, un faiseur de miracles. Il les guérissait de leur maladie. Je ne peux certainement pas blâmer ces Juifs qui font une longue route à pied dans des conditions très difficiles et sous un soleil de plomb. Si j'avais été là, je me serais joint à eux. Aujourd'hui, les gens agissent pareillement. Quelqu'un de bien malade, s'il croit qu'un médecin ou un guérisseur qui se trouve à des centaines, voire des milliers de kilomètres peut faire quelque chose pour lui, il y a des chances pour qu'il fasse le voyage. Que ne ferait-on pas pour recouvrer la santé? Donc cette foule, comme un troupeau sans berger, arrive en masse cherchant un berger qui prendra soin d'elle. Ces gens ne croyaient pas vraiment que Jésus était le Messie tant attendu, mais seulement un prophète comme il y en avait eu dans l'Ancien Testament. Mais dans tout ça, le plus malheureux est ce qui arrivera par la suite. Dès que les chefs religieux feront claquer le fouet, ils rentreront tous dans les rangs. Dès que pèsera sur eux la menace d'expulsion de la synagogue, ils vont oublier Jésus comme par enchantement. Leur foi véritable est dans la religion, dans les rites du judaïsme, et pas en la personne du Christ. Jésus accepte de les guérir par compassion et exerce ainsi la miséricorde divine, mais il sait bien qu'il ne peut se fier à eux. D'ailleurs, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert et n'a pas besoin qu'on lui apprenne que je suis un hypocrite. Il me connaît très bien. Les miracles extraordinaires que Jésus faisait captivaient la foule et donnaient ainsi l'occasion au Seigneur de donner un enseignement concernant le royaume de Dieu qu'il offrait à la nation juive. Et puis dans cette foule immense, on est en droit de penser qu'après la résurrection, quelques-uns se sont souvenus de ce qu'ils avaient entendu et en sont venus à mettre leur confiance en Jésus-Christ pour se joindre ensuite à l'Église naissante. Je continue le texte. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche, versets 3 à 4. Dans cette région, il n'y a pas vraiment de montagne, rien qui soit au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Néanmoins, les collines sont très escarpées. Le fait que Jean, l'auteur, ait noté que la Pâque des Juifs était proche est important à la fois sur le plan théologique et chronologique. Le récit de l'apôtre associe très régulièrement les actes de Jésus aux grandes fêtes qui rythmaient le calendrier juif. Donc, à cette époque de l'année, la pensée des gens était occupée par la célébration à venir, l'agneau qu'il leur faudrait acheter et saigner afin de le vider de son sang, ainsi que le pain sans levain. Tous ces éléments vont faire partie du discours de Jésus. Ils attendaient aussi un nouveau Moïse qui les délivrerait du joug romain. Voilà ce qui préoccupait ces gens. Étant donné que c'est la deuxième fête de Pâques à laquelle on est sûr que Jean fait allusion et qu'il en mentionne au moins une autre, on en déduit que le ministère du Christ s'est étendu sur environ 3 ans. Les événements de ce chapitre ont donc lieu environ 12 mois avant que Jésus ne soit crucifié. Je continue le texte. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Versets 5 à 6. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville la plus proche de ce rassemblement, et par conséquent, il devait connaître les ressources locales. Cependant, Jésus ne voulait pas simplement un renseignement technique. Cette question faisait partie de son programme de formation pour ses disciples. Philippe n'était pas du genre bavard. Contrairement à Pierre, par exemple, il n'avait jamais grand-chose à dire. André en est un autre qui causait pas beaucoup. C'était pourtant lui qui avait amené Pierre au Seigneur. Ces deux hommes étaient très actifs, débattants, mais pas des orateurs. Ils devinrent amis et ce sont eux que plus tard des Grecs consultèrent afin d'être introduits auprès de Jésus. Par sa question, le Seigneur essaye d'amener Philippe à réfléchir. Tous les disciples regarde cette foule immense, au moins 15 000 personnes. Pour les nourrir, il faudrait une quantité considérable de nourriture. Je continue. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Verset 7. Peut-être que ces 200 pièces d'argent représentaient la cagnotte du groupe, ce dont il disposait d'avance. Mais ce serait une grosse somme d'argent car elle représenterait environ 7 à 8 mois de salaire d'un ouvrier moyen. C'est Judas qui faisait les comptes tout en se servant au passage, nous apprendrons plus loin. Humainement parlant, il était impossible de se procurer une quantité de pain suffisante dans les villages avoisinants pour satisfaire des milliers de personnes à une heure aussi avancée du jour. Et puis les boulangers et les bouchers du coin, il aurait fallu les avertir 15 jours à l'avance pour qu'ils fassent venir la farine et commander le poisson aux pêcheurs du coin. D'après les autres évangiles, les disciples conseillèrent à Jésus de renvoyer tous ces gens chez eux. Voilà, bon débarras. C'était en effet une façon de régler le problème. Je continue le texte. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Versets 8 à 9. Selon un autre évangile et suite à l'ordre de Jésus, « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir. Les disciples sont allés parcourir la foule pour savoir si certains avaient amené de quoi manger. Tout ce qu'ils purent trouver fut le casse-croûte d'un petit garçon, 5 petits pains et 2 poissons séchés. Un déjeuner pour une seule personne, en somme. L'impuissance de l'homme prépara le terrain pour une manifestation de la compassion et de la puissance de Jésus. Élisée, un des premiers prophètes de l'Ancien Testament, avait fait au nom de l'Éternel un miracle semblable. Je cite le passage. À cette époque, un homme apporta des vivres à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveaux dans son sac, comme premier produit de la nouvelle récolte. Élisée dit à son serviteur, partage ces vivres entre tout le monde et qu'il mange. Celui-ci répondit, « Comment pourrais-je nourrir 100 personnes avec cela ?» Mais Élisée répéta, « Partage ses vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, « Chacun mangera à sa faim et il y aura même des restes. » Le serviteur distribua les pains à tout le monde, ils mangèrent et il y eut effectivement des restes comme l'Éternel l'avait annoncé. Fin de citation. Mais il y avait ici, au bord du lac de Tibériade, quelqu'un de beaucoup plus grand qu'Élisée. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.